Du dimanche 8 au mardi 10 décembre 2002. Madina, Missiri Koro. Cérémonie de mariage, puis rencontre avec un marabout. Les derniers kilomètres de piste pourraient être qualifiés d'autopiste. Nous étions auparavant seuls. Quelques cyclistes nous indiquaient le chemin en cours de route. La piste s'est élargie. Des camions roulent à toute vitesse dans un nuage de poussière. Nous redoublons tous de prudence. Je suis obligé de rouler les yeux fermés lorsque nous nous faisons doubler. Il me faut alors veiller à respecter les distances de sécurité. J'ouvre les yeux par intermittence afin de vérifier que nous n'avons pas dévié. Ouf, le camion est désormais devant. La poussière retombe au sol. J'entends déjà le camion suivant. La latérite se transforme en goudron. Nous sommes arrivés à Bougouni. C'est une véritable ville. Nous retrouvons l'animation des commerces de bord de route. Mohamed, sympathique étalagiste, nous prépare café et omelette. Cela nous change des repas à base de mil et de sorgho, avalés matin, midi et soir. J'ai soif et besoin de fraîcheur. Une vieille dame vend dans un seau en plastique multicolore des dablinis, fleurs de bissap bouillies dans de l'eau sucrée. Le mélange est ensuite glacé et servi dans des sachets en plastique. Nous en prenons tous un. J'en bois plusieurs d'affilée, mais un mal de ventre m'oblige à m'arrêter au bout du quatrième. Draman et Clé se sont pris au jeu. Ils souhaitent repartir. Ils ont pris goût au tandem, au rythme des coups de pédale. Sur la route, les sensations ne sont pas les mêmes. Les tandems avancent plus vite. Camions, voitures, vélos et mobylettes nous doublent ou se font doubler. Les panneaux Coca-Cola nous indiquent la direction. Je décris à Clé certains chargements originaux. Un cycliste transporte une chèvre sur son porte-bagages arrière. Un autre tient le guidon avec les pattes d'une poule et d'un oiseau coincé entre les doigts. Draman et Clé souhaitent rouler vite, avancer. Un vélo veut nous dépasser. Nous nous prenons au jeu. Pilotes et copilotes, lancés à plein régime, nous poussons la mécanique dans ses retranchements. Gagné, bon perdant, notre adversaire nous salue, puis fait demi-tour. Arrivés à Kouali, nous demandons à rencontrer le chef du village. Ce rituel est systématique à la tombée de la nuit. Quel que soit le village, nous nous présentons d'abord à son chef. C'est ce dernier qui nous en ouvre les portes. Nous prenons le temps d'expliquer notre périple, d'où nous venons, où nous allons. Nous faisons parfois face à des réactions surprenantes. Nous sommes ennuyés, nous n'avons pas d'hôtel à proximité. Les Blancs ne pourront pas manger notre nourriture, ni dormir sur des nattes. Clé et Draman rétorquent. Ne vous faites pas de soucis. Ils dorment sur des nattes depuis leur arrivée au Mali. Ils mangent de tout et aiment le taux. Cela fait 4 mois qu'ils sont en Afrique. Ils sont devenus de vrais Africains. Ces propos détendent à chaque fois l'atmosphère. Souvent, nos hôtes ont peur de ne pas être capables de nous recevoir suffisamment bien. Nous trouvons souvent le chef du village assis sur un mirador, plateau de branchages surélevé par rapport au sol, à l'ombre d'un tamarinier. C'est là qu'il s'entoure de ses conseillers pour prendre les décisions importantes. C'est également là qu'il raconte aux enfants des contes et des légendes du village. Face à lui, nous nous retrouvons à chaque fois au cœur du village. Le temps d'une soirée et d'une nuit, nous sommes sous sa protection. Les habitants ne nous craignent plus. Ils viennent nous voir et nous parler facilement. La plupart du temps, on met à notre disposition une pièce dans une case où nous pouvons laisser se reposer les tandems avant de les rejoindre pour dormir. Ce soir, le chef du village décide de nous emmener à un mariage. Nous nous retrouvons face à la demeure de la famille de la mariée. Des envoyés spéciaux du foyer conjugal, frères et amis du marié, l'attendent avec impatience. L'un de ses frères sort et tend un sac avec toutes ses affaires. Elle apparaît peu après, toute de blanc vêtue. Rapidement installée à l'arrière d'une mobylette, elle est conduite auprès de son mari. Tout le village s'est ainsi réuni pour la voir partir. Ses parents ont organisé une fête de revoir à laquelle les mariés n'assistent pas. Un groupe de percussionnistes et de danseurs, en vêtements traditionnels, crée l'ambiance en jouant du didadi, style de musique traditionnelle joué au cours des cérémonies. Je suis surpris de ne voir danser que les femmes. Clé m'explique. La danse intéresse actuellement plus les femmes que les hommes. Autrefois, ce n'était pas le cas. Les traditions évoluent. Nous nous prenons au jeu. Un mariage sans marié. Je suis surpris. Clé ajoute. C'est la coutume. La mariée a été conduite dans la chambre nuptiale. Demain matin, le mari en sortira et présentera le drap souillé de sang, preuve que le mariage a été consommé. La batterie de la sono s'éteint, signalant la fin de cette soirée. Nous découvrons une vie différente sur le goudron. Nombreux sont les vélos qui circulent sur les bas-côtés en latérite. Moyen de transport économique, c'est souvent un outil de travail pour les vendeurs de bois, de charbon, de poules. Un cycliste nous double et s'arrête un peu plus loin. Parti il y a 2 jours de Bamako, il va à Sikasso. Il ne s'est arrêté que quelques heures pour dormir. Les salutations passées, il repart. Impossible de rouler à son rythme, il va trop vite pour nous. Les villages de bord de route se ressemblent tous. Une façade constituée de quelques maisons rapprochées. On y trouve invariablement les 3 mêmes enseignes, Coca-Cola, Nescafé et Maggi. D'autres boutiques affichent des biteries, équivalent d'une charcuterie. Vulcanisateur, la boutique permet de regonfler les pneus. Mécanographe, atelier de réparation mécanique. Station essence, étalage de bidons de verre remplis d'essence. Alimentation générale, petite échoppe, proposant du Coca-Cola, quelques fruits et légumes, des bouillons cubes Maggi, du thé vert, des sachets de Nescafé, des boîtes de lait en poudre ou des conserves de lait concentré sucré, du sel et du sucre. À l'arrêt, nous découvrons une deuxième vie. Il suffit de se laisser guider par les cris des enfants et le bruit des pilons écrasant le mil. Derrière la façade se trouve le vrai village. Quelques cases, des cours intérieures, des ruelles de sable et de terre qui s'entrecroisent. Le goudron n'est pas toujours sans risque. Un nid de poule mal négocié, un pneu mal gonflé, la chambre à air se pince. La déchirure près de la jante laisse s'échapper l'air prisonnier. La crevaison classique. Les tandems sont forcés à s'arrêter. Le matériel de réparation est sorti. La roue est démontée. Jean-Christophe se charge généralement de remplacer la chambre à air, tandis que je répare celle qui a crevé. Nous pouvons repartir. Quelques kilomètres plus loin, un feu de brousse nous arrête. Clé m'a averti quelques kilomètres avant que je puisse en apercevoir des indices. Ces feux sont fréquents, m'explique-t-il. Les villageois les allument dans les champs pour désherber. Le vent souffle avec force. Le feu se propage le long de la route. Certains villageois accourent avec des tiges de palmiers afin d'étouffer les foyers indésirables. Les tandems ont ralenti. Les poumons se gonflent. Les muscles des mollets se tendent. L'accélération est rapide. Tel un éclair, nous franchissons le nuage de fumée épaisse avant de ne plus pouvoir passer. Nous respirons de nouveau l'air pur quelques mètres plus loin. Tous les villageois se sont déployés et commencent à vaincre le feu. Quelques heures plus tard, les crépitements se font de nouveau entendre. Nous faisons à ce moment une pause dans un petit village. La place centrale se vide brusquement. Tous se ruent vers la case qui a pris feu soudainement. L'intervention rapide et efficace ne nous laisse pas le temps de réagir. Tout est revenu à la normale quand nous réalisons ce qui s'est passé. Draman nous explique sa volonté de s'arrêter aux grottes de Missirikoro, à 12 km de Sikasso. Des enfants nous font visiter leur terrain de jeu. Ils nous font découvrir des empreintes dans la pierre, des pieds, un coude, un genou. Draman et Clé les parcourent à la main. Ils mettent leurs pieds, leurs mains dans les empreintes pour les comparer. Nous les imitons. Une partie de la première grotte est aménagée en mosquée. Ils y font leur deuxième et troisième prière de la journée. Des entrailles, nous partons en direction du sommet à l'extérieur. Une succession d'échelles et de chaînes y mène. Draman et Clé prennent plaisir à escalader ces rochers. Quelques pierres glissent parfois sous leurs pas. Suivent quelques cris de frayeur, la main qui se crispe sur mon épaule ou celle de Jean-Christophe et un léger rebond pour changer d'appui. J'entends Jean-Christophe guider Draman. « Vas-y, suis-moi, encore un pas, 50 cm vers l'avant. » Tu vas maintenant te retourner, t'accroupir et attraper l'échelle, qui est juste là. Il la fait résonner d'un coup de bâton. Descends ton pied. Tu sens la prise? C'est bon, bravo. Au sommet, Draman est ému. Je ne savais pas que l'on pouvait ressentir de telles sensations dans mon pays. Je sens la brise sur mon visage, l'air est frais. Je souhaiterais rester plus longtemps ici. Il se tient debout sur la plus haute pierre, fier et heureux. Il m'évoque ces alpinistes ayant vaincu les plus hauts sommets du monde. Les enfants qui nous ont accompagnés nous invitent chez leur grand-père, le marabout de Missirikoro. Celui-ci ayant 4 épouses, ce sont 2 de ses nombreux fils qui nous offrent l'hospitalité. De 19h à 23h30, les services de thé circulent. Je leur sers les 3 services à base de thé vert impérial avec lequel nous voyageons. Ils nous servent les 3 services à base de thé vert à gros grains. Jean-Christophe sert du café tout bas. Nous découvrons le Kinkeliba, infusion locale. Nous passons beaucoup de temps à discuter, à échanger sur nos différentes croyances et religions. Nous découvrons de nombreuses similitudes dans notre approche de la religion, que ce soit avec Clé et Draman ou avec nos autres. Notre religion est moins régulée que l'islam. Pour autant, est-elle plus facile à vivre ? Nous n'avons pas l'obligation de faire 5 prières à des heures fixées par le Coran. Nous sommes pourtant censés prier au minimum une fois par jour. Nous ne faisons pas le ramadan. Le carême est aussi une période de dénuement, du non-essentiel, pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Le dialogue reste ouvert et chacun est heureux d'en apprendre un peu plus sur l'autre. Le rôle du marabout nous est expliqué. C'est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Beaucoup de choses nous échappent. Nous nous retrouvons parfois devant des choix difficiles à faire, des conflits à régler. Le marabout a reçu un don de Dieu. Il a également suivi une école coranique. Les personnes viennent le voir pour régler des problèmes. Certains marabouts auraient des pouvoirs pour guérir des maladies, d'autres pour régler des conflits. Dans mon fort intérieur, je reste dubitatif quant aux 10 pouvoirs. Je découvre une autre réalité. Les pays de l'Afrique subsaharienne, à la différence des pays du Maghreb, ne parlent pas l'arabe. Or, le Coran n'est accepté que dans la langue dans laquelle il a été écrit, l'arabe. Je me demande combien de Maliens et de Sénégalais comprennent réellement le sens des sourates qu'ils récitent à chaque prière. Le marabout a pour première fonction d'enseigner la signification du Coran, l'application de ses principes dans la vie de tous les jours. La connaissance du Coran lui apporte un autre regard sur les problèmes évoqués. Les marabouts sont souvent décriés par l'islam. Je commence à saisir les raisons de leur succès dans ces régions. Ils font le lien entre les religions animistes, l'islam et la dure vie de tous les jours. Nous avons enfin l'honneur de rencontrer notre hôte, le marabout de Missirikoro. On nous explique qu'il est très sollicité. Certains doivent parfois attendre plusieurs mois avant d'être reçus. Nous le remercions de son attention. Allongé sur un matelas, il est en train de se faire masser par 2 personnes. Draman et Clé parlent longuement avec lui. Nous nous contentons d'observer la scène. À la fin, il bénit leurs mains. Il nous sort plusieurs enveloppes timbrées en provenance des États-Unis, de France et d'autres pays. Il nous explique qu'il est souvent consulté par des étrangers. Il termine en nous tendant sa carte de visite. Draman nous explique. Ce marabout est un guide spirituel. Il nous aide à résoudre nos problèmes par la prière et les bénédictions. Les effets se font sentir dans le temps. Chez les animistes, le féticheur provoque des effets immédiats.